introduction aujourd'hui en forme de question, puisque j'ai la chance d'avoir avec moi un philosophe. J'ai reçu, il y a quelques semaines, un très long dossier de presse à l'adresse de l'émission, jusqu'à la Lune et retour, sur ma boîte mail à France Culture. Je reçois évidemment de nombreux dossiers de presse pour me présenter des spectacles accessibles au jeune public ou des projets de livres. Les attachés de presse qui me contactent ne se trompent pas de destinataire, puisque mon émission est justement consacrée à la programmation jeune public des théâtres et à la littérature de jeunesse. Bien entendu, j'opère un tri dans tous ces dossiers pour ne pas transformer mon émission et moi-même en porte-voix de l'industrie culturelle. Toujours pour être plus proche de la critique que de la prescription aux consommateurs, je privilégie la rencontre avec les auteurs, les illustrateurs, les peintres, les metteurs en scène, les artistes, les philosophes, les scientifiques ou les conteurs. Alors, pourquoi un attaché de presse m'a-t-il envoyé un long dossier à propos d'une chaussure révolutionnaire, je ne dirai pas la marque, grâce à la technologie de la hyperrine, indispensable pour, je cite, les fans de free running. Oui, pourquoi cet envoi? Parce que cette société ne travaille pas bien sa cible? Ou alors, pourquoi pas, comme l'on dit en langage marketing, peut-être parce qu'on pense que désormais les radios et leurs journalistes ne sont là que pour vendre des produits de consommation courante. Or, j'espère que notre émission a été quand même repérée comme une émission culturelle. Voilà la question que je voulais poser. J'attends pas forcément de réponse, même si je sais, Bernard Stiegler, que ces questions de la consommation qui envahit notre espace est une question qui vous occupe, voire vous préoccupe.
Oui, je pourrais même dire qu'elle m'obsède d'une certaine manière. Elle m'obsède, c'est jamais très bien de dire qu'on est obsédé par quelque chose, c'est un côté pathologique, mais je crois que la question de la consommation aujourd'hui est devenue une préoccupation de tout le monde. Par exemple, des parents.
Oui.
Qui sont extrêmement exposés à ce problème, qui sont confrontés à des dilemmes très très souvent. À savoir, si je n'entre pas dans la prescription qui m'est imposée, je pèse mes mots, moi, d'une façon totalitaire aujourd'hui. Et qui m'est imposée via mes enfants, qui sont donc mes enfants manipulés, qui sont des victimes. Alors, mes enfants ont une difficulté à se socialiser. On me met dans une espèce de situation impossible, d'avoir à dire non à quelque chose et à penser que si je dis non à cette chose, par exemple qu'on me demande une trousse avec la marque machin ou je sais pas quoi, ou une paire de chaussures ou n'importe quoi d'autre, je vais exposer mon enfant au risque finalement d'une désintégration sociale.
Oui, une exclure. Et cette chaussure dont je tairai vraiment le nom, prix conseillé aux adultes, je lis le dossier de presse, 120 €.
Voilà.
C'est pas rien, c'est le début du prix.
Alors moi c'est un sujet qui me fait de plus en plus travailler, d'abord parce que je suis père et grand-père, donc je connais ce problème tout le temps, mais aussi parce que je crois que c'est une question qui concerne profondément la reconfiguration de ce qu'on appelle la culture dans notre société. Que finalement tout ce qu'on appelle les industries culturelles, le vecteur culturel, ce que Rifkin appelle maintenant le capitalisme culturel, dont on dit qu'il représente 40% du chiffre d'affaires mondial, de toute l'activité économique mondiale. Évidemment, si on y implique le satellite qui sert à distribuer les images dans tous les pays, etc.
Donc toute l'industrie qui accompagne, oui.
Met évidemment en œuvre toute une industrie qui n'est pas que culturelle, bien entendu. Mais il y a là une pression qui s'opère sur la vie des gens, la culture. Pour moi, c'est ça la culture, c'est les modes de vie quotidiens des gens, que ce soit en écoutant France Culture ou en concevant leur manière de la manière dont leurs enfants doivent fréquenter l'école, etc., etc. Bon, tout cela est aujourd'hui soumis à cette logique, et je pense que c'est ça me préoccupe énormément. D'abord parce que ça me pose personnellement des problèmes, ça pose des problèmes à tous mes amis, à tous mes amis parents. Et c'est pas quel parent, tout le monde est exposé à ça, directement, personnellement. Mais d'autre part, Je crois que c'est un modèle qui est arrivé à sa limite. Parce que, par exemple, je me suis pas mal appesanti sur un article qui était publié dans Le Monde le 15 juillet dernier, qui parlait, à la suite d'une étude confiée à un institut spécialisé qui s'appelle l'IRI, donc qui est spécialiste dans l'étude du marketing, et qui constatait que la grande consommation en France commençait à baisser, et que l'hypothèse était que la baisse n'était pas liée à des causes économiques, c'est-à-dire pas à des problèmes de pouvoir d'achat, mais à des problèmes de désaffection, de dégoût. Cet institut spécialisé a fait apparaître que maintenant se formaient ce qu'ils appellent des alter-consommateurs, qui sont des gens qui ne veulent plus consommer sur les modèles de la consommation. Ça, c'est très très intéressant. En même temps, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle.
Oui.
En même temps, c'est une nouvelle dangereuse, parce que la réduction de la consommation, c'est l'augmentation du chômage, vu l'état de la société aujourd'hui, son extrême nervosité, son caractère ultra-réactionnaire par moment, ou en tout cas réactif, au sens où Nietzsche parlait de réactivité, le ressentiment social, etc. Faut faire très très attention, il n'y a pas de quoi se réjouir si l'activité économique ralentit. Donc, pour moi, c'est un problème extrêmement central.
Et sauf à penser une société avec un autre sens, mais on n'en est pas là.
Mais malheureusement, le modèle n'existe pas. Et donc, oui. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est une grande part de mon activité. Et d'ailleurs, ce que je fais dans l'IRCAM, pour moi, fait partie de ça aussi. D'un niveau modeste, mais extrêmement passionnant et élevé dans ces objets. C'est d'essayer d'envisager une organisation économique, sociale, industrielle, technologique et culturelle nouvelle, qui permette de sortir de ce qui est une impasse en réalité. Quand on passe à la Chine, par exemple, 1,2 milliard de personnes qui sont en train d'intégrer ce modèle-là, dont on sait que ce modèle est une impasse. Et qu'en plus, en Chine, il va engendrer des problèmes de pollution, des problèmes terrifiants. Il est extrêmement urgent de réfléchir à des modèles alternatifs. Voilà, donc je m'intéresse à ces questions à cause de ça.
Alors, évidemment, je suppose que dans la petite conférence que vous allez donner au Centre National de Montreuil, vous allez parler à des enfants de 10 ans. Est-ce que... alors, vous avez choisi cette idée de l'élévation, hein, de l'être debout, de l'être humain debout, mais pas dans l'idée de l'évolution de l'homme qui se serait mis debout, enfin, j'imagine, mais peut-être pour donner l'idée du sens de la vie.
Dans les deux sens. Moi, j'intéresse énormément à l'anthropologie, à la paléontologie, à la préhistoire. J'ai travaillé avec des préhistoriens pendant plusieurs années. Et je continue à avoir une très grande attention à toute la documentation que nous pouvons avoir sur l'homme préhistorique et même du préhominien, etc. Ce sont des questions qui m'intéressent énormément. Et je pense que pour des enfants, elles sont extrêmement passionnantes. Mais en même temps, vous avez bien compris que ce que je veux faire, c'est d'articuler cela avec la question de l'élévation aujourd'hui. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'avilissement organisé. Quand vous pensez que Patrick Lelay a pu déclarer à la radio, sans être inquiété, que son job consiste, son business, comme il dit plus précisément, enfin, tout le monde a entendu la phrase, mais je la répète quand même, à rendre le temps de cerveau disponible de ses téléspectateurs pour Coca-Cola, c'est quand même incroyable. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que ni le CSA, ni personne n'a réagi. C'est une honte absolue, cette espèce de passivité. Alors, je veux dire que le ministre de la Culture a réagi. Monsieur Donnieu de Vabre, c'est mon ministre de tutelle, vous allez me dire, vous dites ça parce que c'est...
Non, je n'ai rien dit.
J'étais présent, je l'ai entendu, donc il y a quand même quelques personnes qui ont agi, dont lui, dont Jacques Ralit, mais il est quand même incroyable que personne n'ait agi. Nous sommes dans une société de l'avilissement, or les premiers visés sont les enfants. Vous le savez très bien, la théorie du marketing aujourd'hui dit officiellement aux États-Unis, si vous voulez développer un marché, il faut donner des habitudes comportementales très profondément inscrite dans l'inconscient des gens. Or, c'est quand ils sont enfants que ça pénètre. Résultat, les cibles, c'est entre 2 et 5 ans. Voilà là où il faut taper. Bon, ça, on tire les enfants comme des lapins de ce point de vue-là, sur le plan du marketing. Et c'est extrêmement grave, parce que ça crée des situations de perte d'autorité, des systèmes traditionnels de transmission, qui sont la condition de l'élévation. Et moi, je veux dire à ces enfants... Ça m'a excité énormément quand
j'imagine,
quand on m'a proposé cette conférence, c'est un vrai défi, hein, parce que ça fait extrêmement peur. Hein. Rien ne fait plus
peur. Ah oui,
peur
tout le théâtre, moi je l'ai vu rempli par les enfants qui viennent assister à la conférence du conférencier. Je pense que ça peut donner le trac, mais si ça peut vous rassurer, ils sont extrêmement attentifs, ouverts, désireux, non seulement d'écouter, d'apprendre et puis d'échanger. Vous allez voir, ils sont merveilleux.
Non, j'en suis convaincu. Bon, moi, je suis prof, j'adore enseigner et par ailleurs, si vous voulez, je pense que ça peut être notamment pour une conférence sur ce sujet, un public en or véritablement, parce que je pense que rien n'intéresse plus un gosse que de s'élever.
Oui.
Premièrement, les enfants ont le goût de l'aventure. Moi aussi, je suis un aventurier. J'ai toujours aimé l'aventure. Je pense que l'expérience de la pensée est avant tout une aventure. Que c'est une aventure qui a toujours à voir avec l'enfance, au sens où Picasso parlait de l'enfance. Et que le philosophe, par exemple, c'est quelqu'un qui veut rester. C'est un cliché de dire ça. Mais ce cliché doit être visité, revisité d'une manière non stéréotypé, veut rester un enfant, c'est-à-dire un œil neuf. Mais pour moi, dans l'enfant, ce qu'il y a surtout, outre l'œil neuf, il y a le désir de l'aventure et de l'élévation. Par exemple, vous mettez des gamins dans une plaine, il y a une colline, vous les lâchez comme ça, vous pouvez être sûr qu'ils vont grimper en haut de la colline, automatiquement. Et par ailleurs, les enfants rêvent, et à quoi est-ce qu'ils rêvent? Aux aventures. Bon.
Il rêve de voler aussi.
Il rêve de voler, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai envisagé à un moment donné d'appeler cette conférence le vol d'Icare.
Ah.
Parce que Icare m'intéresse. J'en parlerai dans la conférence de ce personnage d'Icare, qui est très très intéressant. J'en parlerai parce que je veux montrer que la vie, c'est l'élévation. Qu'aujourd'hui, il faut parler aux enfants des difficultés de notre temps. Hein. Mmh. Ça, je compte leur en parler. Je compte pas parler à ces enfants en bêtifiant, en essayant d'enjoliver le monde. Non, les enfants sont très... Aujourd'hui, les enfants sont graves.
Ils savent.
Ils savent que le monde va mal. Il faut leur en parler absolument. Il faut surtout pas leur cacher. Il faut pas leur dire... Faut pas leur parler des horreurs. Moi, par exemple, je coupe la radio, la télé, des informations. J'ai une petite fille de 6 ans. Bon, je préfère qu'elle écoute pas. Parce que quelque chose... Mais en même temps, il y a une pression qui pèse. Il faut parler avec eux, c'est extrêmement important. Alors, une des choses dont je veux leur parler, c'est du fait que l'homme veut s'élever, que, bon, aujourd'hui, on fait qu'il s'avilit, et on organise ça de manière industrielle. Bon, il y a eu d'autres organisations industrielles horribles au XXe siècle. Il faut lutter contre ça. Moi, je veux leur donner le sentiment de la lutte, que c'est bien de se battre. Il faut
résister.
Confiant. Non, je dirais pas seulement résister, combattre.
La
résistance, c'est un peu passif pour moi. Et il faut combattre, mais il faut combattre généreusement et affectueusement par rapport à ses semblables. Mais il faut aussi apprendre à tomber. Voilà. C'est pour ça que je voulais parler d'Icare. Parce que pour pouvoir monter, il faut savoir tomber. Par exemple, au judo, c'est la première chose qu'on vous apprend, comment tomber.
Pour ne plus avoir peur, finalement.
Et ne pas avoir peur de tomber, pour pouvoir ne pas avoir peur de monter.
Oui, lutter contre sa peur. D'abord.
Lutter contre sa peur et développer ce que j'appelle le cœur à l'ouvrage.
Écoutez, on a envie d'y être à cette conférence. Alors j'espère que, comme beaucoup d'autres, elle sera éditée, hein, puisque Bayard édite les petites conférences donc qui ont lieu au Centre national de dramatique de Montreuil. Alors je crois que je n'ai pas dit la date de votre conférence, mais il faut le dire, puisque ça sera le 12 mars. À 15h. Voilà. Et je le dis pour les parents qui voudraient que leurs enfants y assistent, retenez, parce que c'est en général très plein. Donc il faut y aller. Et vous restez avec nous, on en reparlera. Mais vraiment, je suis contente de sentir cette énergie qui va passer, j'en suis sûre, avec vous. Alors, les enfants, on peut aussi les amener voir des expositions et agir dans des expositions. C'est un peu l'esprit qui domine dans ce que j'ai vu, parce que malheureusement, j'ai pas pu aller à Villeneuve-d'Ascq voir L'eau y est-tu.
Il faut venir.
Il faut venir, mais je viendrai, Cyril Blondel. Donc là, vous allez nous parler de cette exposition autour de l'eau, au Forum des Sciences, le centre François Mitterrand de la ville de Villeneuve-d'Ascq.
Oui.
Qu'est-ce qui a présidé à cette exposition? L'idée que l'eau, on l'a tous les jours, mais on n'y pense jamais et qu'il faut s'arrêter à un moment donné?
Oui, tout d'abord, je voulais juste faire un petit pont par rapport à ce qui a été cité juste avant. C'est que c'est vrai que moi, j'ai la chance de travailler dans une structure culturelle, enfin, un grand centre de culture scientifique, et dont la mission, enfin, le projet initial, bon, qui est pas mal ballotté et un peu remis en cause, mais dont on espère qu'il persistera, enfin, en tout cas pour ma part. Traite de justement d'éveiller les enfants et la jeunesse à la mise en débat perpétuelle et à éveiller au sens critique pour ne pas être de simples consommateurs. Donc c'est-à-dire que bon, moi je suis concepteur de produits pour la jeunesse, donc je travaille essentiellement avec des produits 3-6 ans ou des 7-15 ans on va dire. Donc je fais des expositions et ce qu'on appelle des malles pédagogiques entre guillemets qui sont destinées à aller dans les écoles. Et la dernière malle sur laquelle j'ai conceptualisé traite de l'alimentation, qui est un sujet fortement d'actualité dans le Nord-Pas-de-Calais.
Et qui a du lien aussi avec la consommation, voilà. On ne cesse de leur dire.
Et voilà, c'est un peu justement le parallèle que je voulais faire en termes de produits de communication, de consommation. L'alimentation est chez nous pas mal abordée en ce moment. Il y a pas mal de thèmes, d'expositions et de conférences, de programmes auprès des enfants pour apprendre à mieux se nourrir dans les cantines, etc. Et c'est vrai que de leur apprendre que les publicités à la télé et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer leur comportement alimentaire et de prendre conscience que cette influence-là, ils peuvent aussi, eux, commencer à en maîtriser une partie pour tendre à un équilibre alimentaire qui serait le leur et pas seulement celui régurgité ou ingurgité de la télé ou des parents est intéressant. Donc, tous les produits que je suis amené à concevoir avec l'équipe du forum et des intervenants extérieurs ont pour souci cela, c'est-à-dire mettre la science en débat, c'est-à-dire décloisonner aussi rejoindre toutes les types de matières, économie, philosophie, art,
linguistique, sociaux, je vois, linguistique. De la table au lavabo, que des mots, par exemple. Enfin, il y a beaucoup.
Voilà, c'est apprendre aussi du vocabulaire pour montrer que la science, enfin, malheureusement pour moi, ayant vécu à l'école, je trouve que certains enfants n'aiment pas les maths ou pas la physique, et en fait, c'est bien plus tard et que malheureusement bien plus tard qu'on comprend que tout est lié, et je trouve ça dommage que encore aujourd'hui on ait encore ce cloisonnement. Bon, ça évolue petit à petit, et bon, moi je suis content de travailler dans un centre qui a la possibilité d'amener ça aux enfants, de montrer que ce que j'apprends en maths a une répercussion dans mon vécu quotidien, que je peux jouer, quand je joue je fais des maths sans le savoir, la logique, quand je fais des activités particulières ou tenir en équilibre, c'est aussi une forme de physique, etc. Et
En fait, on sort de l'enseignement où souvent, malheureusement, on prend, je pense à la physique par exemple, que l'aspect normatif pour pouvoir évaluer les enfants, donc on va leur demander de faire des équations, etc. Alors qu'il y a tout un aspect plus expérimental qui pourrait tout à fait développer l'esprit autant que les algorithmes, je ne sais quoi. Mais c'est vrai que le choix est fait. Donc, je pense que des lieux comme les forums de sciences, je pense à la Cité des sciences de la Villette à Paris, il y en a beaucoup en France.
Des centres de culture scientifique, effectivement, il commence à y avoir quelques grosses structures, on va dire, en province, hors région parisienne, parce que c'est vrai que ici, il y a le grand centre de la Villette et le palais de la Découverte qui sont assez importants. Et puis après, il y a eu des structures. Enfin, nous, on a été créés en 96, donc dans le Nord, qui a été un des premiers et le plus gros de province. Maintenant, vous avez à Bordeaux, il y en a à Rennes, il y en a à Marseille. Enfin, la politique à l'époque. Oui, voilà. La politique à l'époque, c'était que il fallait qu'il y en ait un par région à peu près. Alors, ça peut être deux personnes dans un bureau comme 1000 ou 4000 mètres carrés d'exposition.
On va revenir à l'expo de l'eau, mais je pense à cela parce que vous êtes directeur de l'IRCAM, Bernard Stiegler. J'imagine que à l'IRCAM aussi, vous avez le souci d'accueillir ou en tout cas d'imaginer des parcours peut-être un peu ludiques pour les tout petits les jeunes.
Je dirais pas les tout petits. Oui. Encore que nous y réfléchissons en ce moment pour mettre en place des logiciels, même dans les maternelles, mais d'initiation, ce qu'on appelle l'éveil musical. Mais moi, je suis extrêmement heureux d'avoir signé une convention avec le ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation nationale l'année dernière, grâce à, notamment à l'inspection générale de la musique et Vincent Maestrachi, et également à la direction de la musique du ministère de la Culture, pour que les logiciels que nous avons développés à l'IRCAM depuis presque 30 ans maintenant, pour les compositeurs, pour l'aide à l'écriture musicale, pour la traitement en temps réel du son, pour la spatialisation du son, pour toutes sortes de questions d'écriture musicale extrêmement pointues. Nous avons commencé depuis, maintenant ça fait 3 ans que ça dure, un peu plus même, à faire migrer ces technologies très très pointues vers le public de la jeunesse. Nous avons développé ce qu'on appelle les Music Lab 1, qui sont une espèce de palette de 6 logiciels pour permettre à des enfants d'apprendre les bases de la musique, le rythme, les hauteurs, l'intensité, les échelles, etc. de manière extrêmement intuitive, en manipulant le son, véritablement. Et ça a très très bien marché, puisqu'aujourd'hui on est dans 2000 établissements scolaires. C'est très
important. Quand même, oui.
Et nous avons lancé avec l'inspection générale, donc c'était l'objet de cette convention dont je parlais tout à l'heure, une deuxième phase, qui s'appelle la Music Lab 2, donc, qui est véritablement un ensemble de logiciels pour l'étude de la musique, de l'histoire de la musique, avec des outils extrêmement perfectionnés, mais en même temps extrêmement accessibles. Pour les professeurs de musique d'abord, parce que ce sont des outils à mettre entre les mains des élèves avec leurs professeurs, dans les collèges, dans les lycées, dans les conservatoires municipaux, les conservatoires régionaux et les conservatoires nationaux. Et c'est une chose qui se déroule de manière très très positive, donc j'en suis extrêmement content. Le but ici, c'est que les enfants des écoles qui ne fréquentent absolument pas les salles de concert, etc., accèdent à cette dimension-là, et on voit que ça marche très très bien.
Eh bien, il va falloir que Jusqu'à la Lune et Retour vienne faire un tour de ce côté-là. Alors, pour revenir à votre exposition, oui. Là, celle qui est à l'honneur là pour un an et qui après partira, voyagera dans les écoles et dans d'autres lieux en France, c'est sur l'eau. Alors, l'eau, on sait que c'est un enjeu. Est-ce que vous allez en parler de cet enjeu mondial, hein, politique, géopolitique, que représente l'eau aussi? Parce que là, c'est les 3-6 ans, vous allez peut-être vous en tenir à ce que c'est concrètement, c'est-à-dire l'eau qui passe par le robinet, j'imagine.
Voilà. Alors,
l'eau qui tombe du ciel, la
Effectivement,
pluie.
L'eau est un espèce de, chez nous, un espèce d'incontournable de la culture scientifique, entre guillemets, puisque ce sont des expositions d'éveil scientifique. Donc là, effectivement, chez les 3-6 ans, donc c'est une exposition à peu près de 100 mètres carrés, donc pour les 3-6 ans. Et effectivement, enfin moi j'ai souhaité, en traitant justement, parce que c'est un thème qui a été traité et archi-traité, prendre un petit peu le contre-pied, quelque chose qu'on a moins vu, je dirais, dans des outils destinés aux enfants de cet âge. C'est ce qu'on appelle l'eau invisible, entre guillemets, c'est-à-dire prendre un peu le contre-pied de l'élément eau qu'ils peuvent connaître habituellement, c'est-à-dire surtout l'eau liquide du robinet ou du bain, enfin là où ils sont le plus confrontés dans leur vécu, pour prendre un petit peu la forme des eaux ou de l'eau qu'ils connaissent un peu moins, c'est-à-dire les différents états, qu'ils soient gazeux, glace, neige, et puis les parcours invisibles de l'eau du robinet. Alors c'est venu suite à des entretiens avec des enfants de cet âge-là, de savoir l'eau avant le robinet, de où elle vient, et une fois que tu vides la baignoire, où elle s'en va, et tout un tas de choses comme ça, pour voir ce qu'ils pouvaient imaginer, quoi. Donc, on s'est servi aussi un petit peu des réponses pour, dans les jeux, mettre les réponses qu'ils s'imaginent être les leurs, par exemple l'eau sale va dans la poubelle, des choses de cet acabit. Et justement en les mettant devant des petites expériences, des petits jeux qui justement confrontent le vécu, la science, avec l'imaginaire, la photo des photos qui leur montrent un petit peu aussi des pans invisibles de ce qu'ils ont pas, par exemple des photos d'égouts, parce qu'on dit toujours les égouts, les bouches d'égouts, mais ils savent assez peu ce qui se passe en dessous. Et l'intérêt étant qu'effectivement, les adultes qui accompagnent traitent peut-être en aval de l'exposition, reprennent un petit peu avec des choses du vécu pour rappeler ce qui s'est passé dans l'exposition. Parce que bon, c'est vrai que c'est une heure, c'est assez condensé, il y a pas mal d'expériences sur la glace, la neige, c'est des modules qui durent à peu près 5 minutes, qui vont faire tout seul ou à 8. Et donc, j'imagine, ce serait utopique de croire qu'ils retiennent tout. Mais s'ils retiennent, l'intérêt étant de baigner dans un thème pour que plus tard, je pense que c'est une logique à moyen terme, ils se disent à un moment, oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler, par exemple, faire le rapport entre un fruit qu'on presse et l'eau, quand on demandait aux enfants, est-ce qu'il y a de l'eau dans une orange, il n'y en a pas, quoi. Du jus d'orange, c'est du jus d'orange, et l'eau, c'est l'eau. Et on a beau leur démontrer, c'est assez troublant, ou qu'on laisse fondre un glaçon. En fait, la glace a donné de l'eau. Mais la glace n'est pas de l'eau, quoi. Donc en fait, il y a tout un travail, c'est une forme de logique. Bon, on peut pas lutter contre, parce qu'effectivement, le cerveau de l'enfant n'est pas non plus. On peut pas lui faire forcément admettre des choses qu'il n'est pas prêt à admettre. Mais disons que, en grandissant, en revoyant régulièrement des glaçons, etc., en entendant parler,
Vous êtes allé jusqu'à l'eau du corps, évidemment.
Voilà.
La transpiration, les larmes.
Le pipi. Oui, c'était un des pans le plus compliqué, notamment. Je voulais aborder aussi le sang, la sève ou le liquide amniotique, enfin du ventre, pour montrer aussi, par exemple, pourquoi il y avait du ventre, pourquoi il y avait de l'eau dans le ventre. Donc le rôle de protection, un peu tout ça. Mais j'ai été confronté, alors c'est un peu des problèmes qui sont liés au traitement de l'eau dans une exposition, c'est qu'on est confronté aussi à un cahier des charges qui est assez pesant, parce que
sur la sécurité.
Il y a des termes d'hygiène, parce qu'il faut pas que l'eau croupisse, donc faut inventer des circuits où il faut qu'on puisse changer l'eau facilement. Il faut pas qu'elle reste trop souvent. Il faut pas qu'elle côtoie trop facilement l'électricité, donc avec des systèmes particuliers. Oui. Et donc tout ça oblige effectivement à des normes d'hygiène et de sécurité assez conséquentes, ce qui a obligé à favoriser le thème de l'eau invisible, puisque moins j'avais d'eau à montrer, oui, plus c'était facile à traiter en expérimentation. Donc c'est pour ça que l'eau du corps, effectivement, on essaie de montrer aux enfants par où on perd de l'eau. Donc en leur disant ça, évidemment, eux se disent on perd pas d'eau, sauf que on évoque le pipi, etc. Donc c'est pas indiqué directement, mais ils doivent faire eux le rapprochement entre l'eau et le pipi, qu'ils feront peut-être pas là, mais si leurs parents disent bois pas trop, tu feras pipi sinon, etc. Voilà, c'est un réflexe qui se fera, je pense, en grandissant.
Alors, cette exposition, donc, elle est à Villeneuve-d'Ascq, au Forum des Sciences, et ensuite, elle va voyager.
Hein. Voilà, pendant à peu près 4 à 5 ans, elle tourne dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Il faut que ce soit solide, alors, ce que vous mettez en place, parce qu'il y a des robinets, il y a des tuyaux, il y a de tout dans cette expo.
C'est les deux grosses, si vous voulez, les deux grosses contraintes au niveau du cahier des charges. Bon, c'est l'âge des petits-enfants qui oblige une forme de module, beaucoup de formes arrondies pour éviter de se blesser, tout un tas de choses comme ça. Et la deuxième grosse contrainte est l'itinérance, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse être montée, démontée facilement par des personnes, souvent féminines, parce que souvent c'est des dames
savez,
qui accueillent
les femmes peuvent très bien s'occuper des tuyaux aussi. Alors
c'est au niveau du poids.
Du poids. J'ai ça. Alors juste pour faire le lien avant de se quitter, l'homme et l'enfant cherchent à s'élever, comme vous le disiez. Au siècle dernier, on est allé sur la Lune. Ça a changé la perspective?
Ah oui, certainement. Le fait que, moi, personnellement, je me souviens très très bien, j'ai regardé en direct Armstrong avec mon grand-père, avec mon père, avec ma mère. Enfin, c'est une scène majeure. En plus, c'est la première fois que l'humanité a été rassemblée comme ça en temps réel, parce que c'était quand même en mondovision.
Oui.
C'est extrêmement important ce qui s'est passé, le fait que l'homme ait marché sur la Lune. On n'en a pas encore mesuré l'importance.
Mais on n'a pas renoncé à grimper quand même.
Ah non, je pense pas qu'on ait renoncé à grimper. Je pense que l'homme ne peut pas y renoncer. Moi, je dis que l'homme n'est pas domesticable. Donc, ce que je crois, c'est que quand on veut le domestiquer, comme le fait aujourd'hui le capitalisme industriel qui avilit. Je dis pas ça contre le capitalisme en tant que tel. Moi, j'essaie d'imaginer un capitalisme qui n'avilirait pas. C'est peut-être pas
plus compliqué.
C'est compliqué. Mais en tout cas, il y a pas de fatalité à ça. Ce que je crois, c'est que l'homme veut toujours fondamentalement s'élever.
Bah écoutez, on pouvait pas mieux se